le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Et bienvenue dans ce magazine citoyen consacré donc cette semaine au salon des collectionneurs qui se tiendra vendredi, samedi et dimanche à la mairie de Nouméa. Autour de ce plateau, Daniel Mirou et Jean-Pierre Bressler, les deux organisateurs, mais aussi trois collectionneurs qui exposeront, Inès de la Petrona, William Alighieri et Pascal Ringenbach. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour à Nicolas.
Merci d'être avec nous. Alors peut-être commencer, Daniel Mirou, Jean-Pierre Bressler, c'est une édition qui a dû être difficile à organiser cette année. On le sait, les événements, il y a eu un coup d'arrêt après le mois de mai. On commence à avoir de nouveau des beaux événements. On a vu la Foire du Pacifique le week-end dernier. Vous teniez vraiment à ce que ce salon des collectionneurs ait lieu ?
Oui, tout à fait. Je crois que jusqu'au dernier moment, on se demandait si ce salon allait pouvoir avoir lieu, compte tenu de toutes les péripéties qui ont marqué le déroulement de cette année 2024. Et c'est d'autant plus un grand plaisir pour toutes et tous de voir que les 11, 12 et 13 octobre prochains, eh bien oui, le salon sera ouvert. Eh bien oui, les exposants seront nombreux et on va pouvoir à nouveau donc se réunir comme les années passées, comme les 23 autres années précédentes, puisqu'on en est à notre 24e année de salon. Et je crois que c'est un grand plaisir pour toutes et tous, parce qu'il y a encore deux mois, on s'imaginait, on se demandait si le salon allait pouvoir avoir lieu, parce qu'il fallait aussi trouver des dates. Et ce n'était pas évident. Et là, Jean-Pierre Bressler a fait le maximum pour trouver des dates qui puissent correspondre à ce qui va se passer donc dans les jours qui viennent. Et je reconnais que ça a été un gros travail. Beaucoup de soucis, à savoir, allons-nous pouvoir enfin monter sur ce salon. Et puis, il faut dire une chose, c'est qu'on a aussi des soucis toujours un petit peu actuels, même s'ils ont diminué. C'est quelques exposants du monde d'or qui malheureusement n'ont pas pu venir et qui sont toujours bloqués au monde d'or. Donc ça, c'est encore un petit problème.
Vous allez avoir le même nombre d'exposants que les autres années ?
Oui, cette année, on a autour de 35 exposants, comme les années précédentes.
Donc ça va être un beau salon ?
En principe, oui, avec des nouveautés.
Avec des nouveautés, justement, on va en parler tout au long de cette émission. Peut-être que vous voulez dire un mot sur les nouveautés dès maintenant ?
Ben, les nouveautés, c'est pour la thématique du salon, c'est le vélo moteur ou la mobylette. On a trouvé un collectionneur qui va exposer presque une demi-douzaine de mobylettes. Et il y a un autre collectionneur, c'est une première aussi, qui va exposer des emballages de sucre. Et donc cette année, et puis les éphémères, les fanas de modèles réduits, avec Pascal, c'est une première aussi.
Et justement, au niveau de la collection, le but, c'est de quoi ? D'éveiller des souvenirs chez les gens qui vont venir ? C'est d'éveiller de la nostalgie quand vous faites ce salon ?
Non, je crois qu'il y a plusieurs choses. Et bien sûr, oui, de la nostalgie, de la curiosité. Et puis aussi, dans tout à chacun, il y a un petit, je dirais, fond d'intérêt pour les collections en général. Ça peut révéler des passions, des possibilités de dire « Ah, c'est super, ça, je vais collectionner sur ce thème-là ». Donc, il y en a, après le salon, qui entament des collections.
Alors, Daniel Mirou, vous avez évoqué le cas des exposants du Monde d'Or qui ne peuvent pas venir. On le sait qu'il y a eu beaucoup d'incendies ces derniers temps. Est-ce qu'il y a eu des collections détruites ? Est-ce qu'il y a eu du patrimoine parti en feu ? Est-ce que vous avez connaissance de collectionneurs qui ont perdu des choses ?
Pas directement. Mm-hmm. Alors, j'imagine qu'il y a dû en avoir, sauf que bon, c'est pas remonté jusqu'à nous. Mais je sais qu'au niveau du Monde d'Or, certains ont été... Il y a quand même eu des habitations vandalisées, pour ne pas dire incendiées pour certaines. Et donc, il doit y avoir certainement des collections qui ont disparu, mais on n'a pas
d'état des lieux précis. Au niveau des exposants, c'était important aussi pour vous de soutenir cette organisation et d'être présent ce week-end ?
Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est important pour les uns et les autres de venir. C'est un réconfort en même temps pour les organisateurs du salon.
Quelqu'un veut prendre la parole peut-être ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous motive à venir exposer à la mairie de Nouméa ?
Le but de l'exposition, c'est de revoir un peu tous les collectionneurs, les gens qui étaient un peu reclus chez eux. Ça fait quand même une sortie, voilà, même une thérapie pour certains qui ne voulaient plus rien faire. Ça fait aussi un événement qui est attendu, parce qu'il y a peu d'événements sur le territoire. Bon, pour en revenir à ce qui a été détruit, il y a quand même le musée de Païta, la maison de Tonton Marcel, où il y avait beaucoup de choses du patrimoine, plus un doc à Normandie, où beaucoup de choses étaient stockées pour le musée du bagne. Donc ce ne sont pas des collections privées, mais ce sont des collections communales qui sont très importantes, quoi. Donc il y a ça de perdu.
Et quand on est collectionneur et qu'on voit ce genre de choses de détruit,
Disons que c'est... Bon, il n'y a pas de mots, parce que c'est affligeant, en fait. Parce que ça, c'est pas de la politique, c'est le patrimoine de tout le monde, de toute ethnie confondue. Donc c'est dommage d'avoir détruit de telles pièces. Puis c'est des pièces qui n'ont pas de valeur. C'est impossible à refabriquer. Tout ce qui est du bagne, Les gens qui étaient au bagne, ils étaient reclus pour des dizaines d'années, ils mettaient du corps à l'ouvrage, ils ont fait des choses que personne ne pourra refaire, même avec des machines. Donc c'est des choses qu'on verra plus jamais. Plus les budgets communaux ou de musées, ils sont moindres, donc ils ne pourront pas acheter à l'extérieur ce genre de pièces. Et puis il y a des pièces qui sont pas remplaçables, quoi, hein, parce qu'elles sont par définition toutes uniques, quoi.
Et c'est une collecte de 60 ans, quoi.
Et puis voilà, puis c'est l'histoire de la Calédonie. Et puis il y a beaucoup beaucoup de bénévoles, qui se sont impliqués dedans. Ça leur met aussi un coup de barre. Ils n'ont plus envie après, quoi. Hein. Même il y a des gens qui collectionnent. En ce moment, il y a des gens qui vendent des choses. Bon, moi, je suis dans le domaine des collections. Les gens, ils revendent parce qu'ils sont un peu blasés. Ils disent, c'est pour avoir des trucs qu'on nous brûle ou quoi.
D'accord.
Aussi que là, les gens, ils sont plus. Ça enlève comme une motivation. Bon, après, voilà, c'est passager.
Vous, visiblement, vous gardez la motivation. Votre thème de collection, c'est quoi?
Mais donc, moi, c'est viscéral. Moi, là-bas, je suis un gros collectionneur de coquillages. Donc, j'aime les coquillages, j'aime la plongée, différentes choses. Et j'aime toutes les collections aussi, quoi. Hein. Et pour, disons, agrémenter ma collection, je suis toujours en contact avec d'autres collectionneurs avec qui je fais des échanges, qui demandent d'autres choses. Donc, voilà, je maîtrise un peu le sujet. Et ce qui est sûr, c'est qu'un événement comme ça, c'est rare à Nouméa. Donc voilà, il ne faut pas le rater. Donc j'invite tous les gens qui aiment les collections ou pas, même pour découvrir, à se rendre à la mairie donc, ce week-end, tout en sachant que ce n'est pas que de l'expo. Il y a aussi de la vente, il y a de l'échange. Il y a des gens qui peuvent venir pour faire des estimations. Par exemple, ça peut être dans les coquillages, avec Jean-Pierre dans les pieds, dans les billets, avec le monsieur qui collectionne les petites voitures, s'ils veulent se renseigner. Et puis ça peut aussi créer des vocations, et puis ça fait un événement aussi, quoi, hein, les gens. Bon.
Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que sur un même lieu, finalement, on a un petit peu de tout. Hein, quelqu'un qui va aller voir des coquillages, il va y avoir des tableaux, il va y avoir. Là, on a des Pokémon, par exemple.
Oui, c'est ça. Je vais présenter et vendre ou échanger des cartes Pokémon. Je vais également emmener des accessoires pour le jeu de cartes à jouer à collectionner, ainsi que d'autres objets comme des peluches ou des objets du quotidien. Comme une lampe, j'ai une lampe en forme de Pokémon, j'ai de la vaisselle par exemple.
Comment ça vous est venu de collectionner tous les objets en lien avec les Pokémon?
J'ai commencé très tôt en fait, j'ai surtout commencé avec les cartes lorsque j'avais 10 ans. Je suis de la génération du Club Dorothée, tout ce qui est dessin animé, manga. Donc Pokémon s'est tombé pile pendant cette période-là, ça ne m'a jamais vraiment quittée. Et j'aime toujours, on va dire, cet univers, les jeux vidéo, notamment le dessin animé.
Et on sait que ce sont des collections aujourd'hui qui peuvent avoir une valeur inestimable. Il y a une vraie cote aussi, il y a un investissement de ce point de vue-là. Est-ce que ça rajoute un intérêt à la collection?
Je pense oui. Après, voilà, chacun fait sa collection différemment. Moi, je collectionne pour le plaisir de collectionner. Certaines personnes collectionnent plus pour le côté spéculatif, tout ce qui est investissement, évidemment. Mais oui, certaines cartes Pokémon valent des millions de dollars. Donc, j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais la carte la plus chère, qui est toujours la plus chère, c'est Pikachu Illustrator, qui vaut 6 millions de dollars. Donc 650 millions de francs CFP à peu près.
Est-ce qu'on peut dire c'est qu'elle ne sera pas exposée à Nouméa, celle-ci?
Non, mais elle est actuellement en vente sur eBay pour 4 millions de dollars, si ça vous intéresse.
En tout cas, le renseignement est pris. Vous êtes venu d'ailleurs avec des objets que vous avez ramenés d'un dernier voyage?
Oui, c'est ça. Je me suis rendue à Hawaï au championnat du monde de Pokémon du 16 au 18 août. Je précise, j'y suis allée en tant que visiteuse et non pas en tant que compétitrice. Mais du coup, oui, j'ai ramené des souvenirs que je vais exposer également au salon.
Et c'est une passion qui est dévorante?
Oui et non. Enfin, j'aime beaucoup Pokémon, la collection de cartes Pokémon, des objets, les peluches, etc. Mais je collectionne aussi des timbres, je fais de la philatélie, les figurines d'animés et de manga aussi en général. Donc j'ai toutes sortes de passions, en tout cas de collections.
Alors, on le disait, une nouveauté, c'est aujourd'hui les modèles réduits, c'est ça, Pascal?
Oui, les modèles réduits, c'est-à-dire... tout le monde, quand il était jeune, tout petit, je me dis, il a joué avec sa petite Toto dans la cour, un truc comme ça. Maintenant, il y a des, comme pour les Pokémon, il y a des petites voitures qui ont été faites par Majorette, etc., des grosses compagnies, qui sont introuvables et qui ont des cotes faramineuses, quoi. Mais aussi, moi, je suis plus un peu spécialisé dans le montage. C'est-à-dire, on achète une boîte, dedans, il y a un objet, un avion, un bateau, un char, ce que vous voulez, une voiture, et à monter soi-même et à peindre soi-même.
Donc, d'accord. Voilà. Donc vraiment de la maquette.
Ouais, c'est de la maquette pure et dure, ce qui vous permet d'avoir un intérêt pour quand on achète un modèle, c'est qu'on a déjà un intérêt sur ce modèle. Donc on connaît son histoire, on sait à peu près le situer, etc. Donc c'est très enrichissant historiquement et puis pour notre connaissance personnelle et puis celle des autres aussi.
Ça fait longtemps que vous êtes dans les maquettes ?
Moi, ça fait plus de 30 ans.
Uh-huh. Mmh. Ça vous a jamais lâché ?
Non. Bon, je fais un peu d'autres collections aussi, comme Inès, un peu de philatélie, un peu de militaria, un peu de cartes postales, mais vraiment sur des choses ciblées, parce que j'ai eu la chance de voir des très grosses collections. Par exemple, par la philatélie en Calédonie, j'ai vu la plus grosse collection de Calédonie d'un collectionneur malheureusement décédé il y a quelques années. Bon, on suit pas, quoi. Au niveau, déjà, faut trouver les pièces, ce qui est très dur, puis après, faut trouver les finances, quoi. Une carte à un Pokémon à 6 millions, c'est, comment dire, il faut avoir les moyens.
Hmm. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, finalement ? C'est de rechercher, que ce soit en vrai ou sur Internet, ou c'est de posséder vraiment l'objet ? C'est quoi le plus important ? C'est la quête ou c'est finalement après posséder ?
Les deux.
La recherche, enfin, l'envie, l'attraction pour une pièce, dès lors que vous l'avez, retombe souvent aussi, malgré qu'on soit passionné. Donc c'est la quête avant tout, l'aventure. Des fois, il faut se déplacer, il faut aller faire un échange. Pour quand c'est un coquillage, c'est la plongée. Vous cherchez une espèce. Bon, moi, je fais les nigères et rostrées de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un phénomène endémique à la Calédonie, à une partie de l'Australie, qu'on peut trouver ici. Donc il y a la recherche. Mais en fait, dès que vous obtenez une pièce dans une espèce, après, la pression retombe. Dès que vous avez trouvé quelque chose, ben, c'est une nouvelle quête pour autre chose. Donc c'est sans fin, en fait.
C'est sans fin, ouais.
C'est le but des collections. De toute façon, il n'y a aucune collection qui est complète. Hein. Mm. Même un Saoudien qui va faire les Pokémon, à un moment donné, il y aura toujours un petit Pokémon, une carte qu'il n'aura pas, qui ne pourra pas se payer, parce que même le gars qui n'a pas de sous, il ne voudra pas la vendre, parce qu'il ne sera pas, après l'argent, et il voudra la garder, il mourra avec. Donc personne n'a une collection vraiment complète. Très belle collection, oui. Donc c'est jamais fini.
C'est jamais fini.
C'est le but d'une collection.
Et le désir naît de la frustration, alors.
Voilà, c'est ça.
Si j'ai bien compris.
Et quand cette frustration est comblée, ben, la pression retombe et puis vous trouverez une autre frustration, hein, c'est sans fin.
Mmh. Et votre entourage arrive à comprendre les uns les autres votre passion pour ces collections et le fait d'être complètement passionné par ça, d'accumuler, de rechercher, de vous intéresser, de passer beaucoup de temps, je suppose, parce que ça va être chronophage quand même d'être collectionneur aujourd'hui.
Ah, c'est sûr. Qui veut répondre ? C'est chronophage et généralement, que ce soit la famille ou le conjoint, à un moment donné, il s'y plie, quoi. Soit il s'y plie. C'est rare qu'un collectionneur abandonne. Ce qui est sûr, c'est qu'un collectionneur n'abandonne pas. Et s'il doit s'y plier pour raison familiale ou autre, ou matrimoniale, il va le faire en cachette. Donc moi, je connais beaucoup de collectionneurs qui achètent, en cachette de leur femme, ou l'inversement. Qui vont même avoir des pièces où ils vont stocker dans un box une collection, et jusqu'au décès, les gens, ils ne sauront même pas qu'il a la collection. Donc c'est quand même, c'est obsessionnel, quoi. Hein.
Ah oui, à ce point-là. Jean-Pierre Bressler, vous n'étiez pas d'accord, le conjoint ne s'y plie pas toujours.
Personnellement, bon, j'amasse beaucoup de choses, je collectionne beaucoup de choses, mais bon, apparemment, ça n'intéresse que moi. Et puis, pour la suite, on verra.
J'allais dire aussi que la collection, c'est un passe-temps. En tout cas, pour moi, c'est une activité, c'est un hobby. Et moi, je me sens soutenue, personnellement, par ma famille, mes amis, donc ça va.
Est-ce que c'est un aboutissement, après, d'exposer sa collection ? Parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose de très personnel au début. Vous vivez votre passion, même si vous échangez avec des collectionneurs. Est-ce que là, aller à la rencontre du grand public qui ne connaît absolument pas peut-être les Pokémon, qui ne connaît peut-être pas les coquillages, est-ce que c'est une consécration, quelque part, d'aller partager votre passion ?
Je pense, oui, parce qu'en tout cas, c'est un moment d'échange, de partage, de rencontre. Ça permet de rencontrer des gens qui collectionnent, peut-être qu'ils le faisaient aussi chez eux, dans leur coin, et qui ne savaient pas que d'autres personnes faisaient une collection aussi. Donc, c'est des rencontres, et ça peut aussi permettre de découvrir de nouvelles passions, de nouvelles envies, peut-être de nouveaux collectionneurs ou d'anciens collectionneurs.
Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être un collectionneur en Nouvelle-Calédonie, lié à l'étroitesse peut-être du nombre de collectionneurs, etc., dans certains domaines très spécifiques, de se retrouver tout seul avec ce niveau de collection et d'avoir du mal peut-être à échanger, à vendre, à racheter ?
Oui, un peu, oui. Déjà, on est un peu, comment dire, on est noyé des gros marchés. Le gros marché, c'est l'Europe, les USA, peut-être d'autres. En France, vous faites une brocante à 2 km, vous pouvez trouver des belles choses. Moi, ce que j'ai fait pendant mes dernières vacances, j'ai toujours trouvé une petite bricole, même si c'est 2 euros, un truc comme ça. Mais ici, c'est déjà machin, parce que faut trouver la pièce, faut que le gars, la personne, elle accepte d'envoyer ici. Donc vous avez le transport, puis éventuellement de la douane. Donc c'est déjà plus difficile de collectionner. Hmm. Et ici, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas vraiment d'offre, quoi. Sauf si une personne décède et puis que la collection est mise. Bon, quand c'est des grosses collections, celle que je parlais tout à l'heure, elle a été vendue sur Paris, hein. Elle n'a pas été vendue ici, quoi.
Et entre vous, sur le salon, vous arrivez à échanger des choses? Il y a un marché qui se fait sur le salon?
Il faut savoir qu'en Calédonie, c'est petit. Et dans le domaine de la collection, ben, tout le monde se connaît. Et puis ce salon, ben, c'est un peu le rendez-vous des collectionneurs. Et donc, bon, au niveau entre nous, on tourne un peu en rond, on se connaît. Mais le salon, c'est l'occasion de connaître des nouveaux collectionneurs, des jeunes collectionneurs, et puis de les faire venir. Les faire venir au salon, de les faire adhérer au club philatélique Le Cagou ou dans d'autres domaines de collection.
Ce type de réunion, surtout, ça crée une synergie, en fait, une sorte d'effervescence. Donc il y a plein de gens qui sommeillent chez eux. Bon, moi, j'ai un gars dans mon quartier, je l'appelle l'ours, il reste dans sa caverne. Peut-être que ce jour-là, il sortira. Donc il y a des gens, ça peut même être thérapeutique. Donc ils vont sortir. Et en fait, quand il y a une effervescence, il y a des échanges, il y a de la vente ou autre, ben, il y a des gens qui, en fait, qui s'ignorent, qui vont se révéler ce jour-là. Et quand vous déplacez sur un salon, ben, je sais pas, c'est comme quand vous allez à la pêche, vous voulez pas rentrer bredouille. Donc les gens, ils vont automatiquement faire un échange, un achat ou une vente ou quelque chose. Et ce qui manque donc en Calédonie, pourquoi on est sur un microcosme de collectionneurs par rapport à ce qui peut se passer en Europe, c'est comme il y a très peu d'événements, il y a rien qui crée en fait l'émotion ou l'envie ou la passion. Si le gars, il va pas chercher sur Internet ou autre, voilà, faire des échanges ou autre. Et dès que vous faites des échanges ici, c'est un colis. Un colis, c'est 30 euros. Quand dans d'autres pays, vous pouvez envoyer quelque chose pour 5 euros. Donc vous pouvez pas faire une petite collection, acheter des choses à 1 euro, 2 euros et avoir 30 euros de port pour un objet, parce que chaque objet, c'est disséminé dans différentes régions, en Europe ou aux États-Unis, où vous voulez. En plus, ici, comme on est insulaire, les États-Unis, souvent, ils ne veulent pas envoyer ici. Donc, on est très limité. Et quand il y a ce type d'événement, eh ben, les gens, d'un coup, ben, ils redécouvrent des choses, même de leur enfance ou quoi, ça donne des envies.
Et on parlait à l'instant de jeunes collectionneurs. Alors, le collectionneur type, c'est quoi son portrait robot? Est-ce qu'il y a des jeunes collectionneurs? Est-ce que c'est plus réservé à des gens d'un certain âge qui s'occupent?
Okay. Non, il y a plusieurs étapes dans la collection. Il y a déjà,
c'est par étapes, finalement.
Il y a des personnes qui ont le don de collectionner, qui aiment ça. Il y en a d'autres qui, pendant toute leur vie, n'auront jamais ce don. Bon, là, ça, c'est la première chose. Alors, enfants, bon, ils vont collectionner. Ça peut être des pièces de monnaie. Ça peut être... Ben, il y avait à l'époque des porte-clés. Il y avait l'époque des Scooby-Doo. Il y avait, bon. Et puis, ça s'arrête, en général, au moment de l'adolescence. Je vois au niveau de la philatélie, ben, pour mon cas propre. Eh bien, à partir de l'adolescence, depuis l'âge de 6-7 ans, je collectionne des timbres. Arrivé à 13-14 ans, j'étais moins intéressé. Et puis, à 18 ans, j'ai pratiquement arrêté pour reprendre, à 30 ans. À 30 ans, on reprend la collection. Et c'est assez symptomatique de pas mal de collectionneurs. Et après, bon, c'est à vie. Après, c'est fait pour toujours. Mais il y a souvent des coupures au moment de l'adolescence. Ça, c'est très réel. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure au niveau du salon, il y a une chose qui est symptomatique et qui est une force de ce salon, c'est la convivialité du salon. C'est le fait de voir des personnes qu'on ne voit bien souvent qu'une fois dans l'année. Ouais. On se dit, tiens, un tel, est-ce que je vais le revoir au salon? Puis ça fait un grand plaisir. Je ne sais pas cette année si on aura, compte tenu de circonstances un peu particulières, le cas de voir des personnes qui viennent de brousse, mais on avait des broussards qui venaient uniquement pour le salon. Et donc des broussards qu'on ne voyait qu'une fois dans l'année. Et donc ça, c'est une particularité de ce salon des collectionneurs.
Qu'est-ce qui intéresse le plus les visiteurs sur ce salon des collectionneurs? C'est le patrimoine calédonien?
Oui, je pense. Les ouvrages sur la Calédonie, contemporains et anciens, les coquillages Calédonie, dans certains endémiques.
Il y a des très belles cartes postales aussi.
Oui, des cartes postales anciennes, la CPA. 1900-1920, mais aussi sur la Calédonie, il y a des sculptures mélanésiennes, et principalement beaucoup de choses sur la Calédonie.
Et c'est aussi l'occasion d'échanger, de parler d'histoire aussi.
Oui, enfin, je pense que la base de toute collection, il y a un côté un peu historique dedans. La philatélie, c'est indéniable. Mais d'autres types de collections aussi. Il fait une période, il y avait quelqu'un qui collectionnait les briques du bagne. Et donc, ça révèle toute une histoire particulière, d'avoir une collection des briques du bagne. Et puis, il y a plein d'autres collections comme ça. Les coquillages aussi, ça apporte un intérêt important, surtout que par les temps qui courent, il y a beaucoup de coquillages qu'on ne peut plus retrouver. Donc, c'est un plus de savoir, ah, ben, j'ai tel coquillage qui permet donc de relater une histoire propre à la vie de ce coquillage à l'époque où il était abondant dans le lagon. Non, je crois qu'il y a pas mal de curiosité, là, je veux dire, naturelle de tout un chacun pour appréhender des différentes collections. Et puis le côté historique, indéniable, celui qui collectionne les cartes postales, c'est certain que cartes postales anciennes, ça a un certain succès, ça ne se dément pas non plus. Mmh. Et puis, c'est important. Et comme disait Jean-Pierre, les premières cartes postales, c'est autour de 1900. Et il y en a eu énormément sur la Calédonie, ce qui permet d'avoir des collections de cartes très intéressantes.
Est-ce que les gens ont plusieurs thèmes de collection en règle générale ou est-ce qu'ils se limitent à un objet, un thème bien particulier? C'est quoi le profil? Est-ce que les gens ont plusieurs...
Le vrai collectionneur, il s'éparpille pas trop. Le vrai collectionneur, vraiment obsessionnel, qui fait une thématique, qui focus sur quelque chose, généralement, il s'éparpille pas beaucoup. Après, généralement, les gens qui s'éparpillent sont plus des gens qui... Ce n'est pas des collectionneurs, c'est des gens qui stockent, qui collectent beaucoup de choses. Et il s'éparpille énormément. Mais le vrai collectionneur, il va quand même focusser sur un domaine, parce que comme on dit tout à l'heure, il y a quand même un coût. Et puis après, c'est chronophage, ça prend du temps, il faut entretenir.
Il faut devenir un expert aussi,
voilà.
Je suppose.
Et puis si c'est des grosses choses, il faut pouvoir stocker. Et le vrai collectionneur, normalement, il focus. Et souvent, le gros collectionneur, même des fois, on ne le verra pas au salon. Il y a des gens, oui, on va le voir, mais il sera anonyme. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir à une émission radio ou à la télé ou qui va montrer sa collection. Parce que beaucoup de gens collectionnent des choses d'abord qui les font rêver. Et des choses, pour eux, une collection, c'est quand même personnel. Parce que souvent, voilà, comme on disait, il peut y avoir des conflits familiaux ou autres. Parce que ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage. Donc les gens, ils font ça pour eux. Ils estiment que ce n'est pas pour montrer à quelqu'un. Bon, c'est malheureux, mais des fois, des gens, ils ne veulent pas partager la collection. Mmh. Et moi, je pense que cette année, le salon a une autre définition. Parce qu'on dit toujours, les produits calédoniens sont très collectionnés. Il y a beaucoup de demandes. Et comme les gens, ils font ce qui leur font rêver, ben, en ce moment, avec tout ce qu'il y a eu en Calédonie, il y en a plein, moi, ils me disent « Ah non, ben, je ne veux plus de trucs calédoniens. » ça les blase un peu. Bon, voilà, c'est un peu la frustration du moment. Ouais. C'est passager, ouais. Ça va revenir. Mais quand même, il y a des gens qui se dessaisissent en ce moment, qui vendent certaines choses de Calédonie, parce qu'ils ont moins d'appétence pour la Calédonie. Alors, j'invente, hein, ils veulent aller au Canada, ils vont vouloir un objet en érable ou autre. Parce que derrière la collection, il y a toujours aussi une partie de rêve. Et c'est vrai qu'en ce moment, la Calédonie faisant moins rêver, et ben les gens, ils se dessaisissent. Ce qui est bien, pour un collectionneur comme moi qui cherche des pièces, c'est que ça fait tourner aussi. Parce que dans les collections, pour alimenter qu'il y ait des jeunes, des gens qui démarrent une nouvelle collection, il faut aussi que ça circule. Parce que le collectionneur qui garde tout chez lui, qui thésaurise tout, qui ne partage pas, ben il crée pas un engouement. Et un petit collectionneur qui démarre, s'il n'a que des trucs, des breloques, il n'a jamais quelque chose de beau, ben il va couper. Il va arrêter, il ne va pas trouver d'intérêt à la collection. Donc il faut aussi les gens qui lâchent, qui fassent circuler le patrimoine. Voilà.
Alors, vous avez évoqué le mot obsessionnel. Je ne voudrais pas faire de la psychologie de comptoir, mais est-ce que vous fixez des limites? Est-ce que vous vous surveillez? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas ça devient un peu pathologique, le fait de collectionner, d'amasser? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez en tant que collectionneur?
Je pense que c'est le budget qui fixe des limites.
D'accord.
Souvent, c'est ça. Parce qu'on achète obligatoirement, quoi.
Mais la pathologie, elle reste là. C'est-à-dire que le collectionneur qui fait même faillite et tout, j'invente, hein, qui va collectionner voitures anciennes, et ben, les voitures motorisées, qui valent plusieurs millions, ben, il ne peut plus acheter une voiture ancienne, il va faire, voilà, comme fait le monsieur, il va faire les modèles réduits, les miniatures, puis finir au porte-clé, à la vignette. Mais un collectionneur dans l'âme, il restera collectionneur.
Il collectionne.
Même si vous lui enlevez tout, et c'est l'avantage aussi, parce que quand il y a des périodes Covid ou des périodes d'événements, vous êtes bloqué chez vous comme ça des semaines et des semaines, un collectionneur, il ne se casse pas la tête, hein. Il ne sort pas, il reste chez lui, c'est l'occasion de ranger sa collection. Hein. Donc c'est aussi une thérapie gratuite, ça pourrait être remboursé par la CAFAD.
Mais il y a deux freins, je pense, c'est vrai, à la collection. C'est le fait peut-être de pouvoir, comment dirais-je, collectionner, et puis... en même temps, se réfréner par la force des choses, par l'argent, c'est clair, comme disait Jean-Pierre, c'est certain que c'est le budget qui fait la... Et puis aussi, une deuxième chose, c'est l'encombrement. Alors, il y a des collections qui ne prennent pas de place, les tas entre autres, des cartes postales, les billets de banque, mais il y a d'autres collections qui prennent beaucoup de place. Et donc ça, c'est moins évident. Hein. Ceux qui veulent collectionner les flacons de parfum, il y en a une collectionneuse qui avait plusieurs dizaines de flacons de parfum, je peux vous dire, il faut avoir beaucoup de,
de rangement disponible. Et puis même plus que ça. Tout à l'heure, on parlait des briques du bagne, mais pour voir, on parlait de modèle réduit. Le modèle réduit peut, très réduit, c'est super, mais dès lors que c'est à un pourcentage relativement important, il faut pouvoir les caser.
Bien sûr. Et alors, vous qui avez beaucoup d'objets qui collectionnez depuis un certain nombre d'années, comment vous préparez votre stand pour le salon des collectionneurs ? Vous vous dites, ça j'ai envie de le montrer, ça j'ai envie potentiellement de l'échanger, de le vendre. Comment vous faites justement ce stand et comment vous préparez vos objets, les uns et les autres ? Peut-être commencer par... Oui, allez-y Jean-Pierre Bressler.
Personnellement, je suis multi-collectionneur.
Oui.
Donc j'aurai plusieurs collections au salon des collectionneurs. Et puis des collections intéressantes comme la bande dessinée, comme les petites voitures, les figurines cette année, parce qu'il faut se mettre un peu à la page. Et puis j'amènerai un peu du matériel des objets américains de la guerre.
Ça aussi, ça marche toujours bien d'ailleurs.
Oui, ici, les gens sont très intéressés.
Comment vous avez sélectionné, par exemple, vos coquillages, justement, pour ce salon ?
Évidemment, quand je vais amener des coquillages ou quoi, ça sera automatiquement des doublons, quoi.
D'accord.
Ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut minimum exposer les pièces pour lesquelles vous n'êtes pas forcément qui ont le plus de valeur, mais pour lesquelles vous avez plus d'affect. Parce que dès lors que vous faites un salon, que vous montrez certaines pièces, il y a toujours des gens qui vont vouloir accéder à ces pièces, et vous allez engendrer de la frustration. Et ce n'est pas bon. Donc en fait, il faut amener des choses que vous êtes prêts quand même à céder, à échanger, à vendre. Et puis bon, après, vous pouvez mettre, par exemple, à Paris, quand il y a un show, il y a toujours une espèce de vitrine où on met le shell du show. Chacun met une pièce et puis il y a un vote pour une très belle pièce. Mais là, dès le départ, le jeu, il n'est pas pipé. On sait que ça ne sera pas commercialisable. Le problème d'amener des choses auxquelles vous tenez vraiment, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir, comme je disais, un obsessionnel qui va vous tanner tout le salon pour vous lui vendre ou échanger la pièce. Donc après, tout ça peut finir en conflit ou faire des tensions.
Ah, s'il arrive le vendredi et qu'il repart le dimanche, c'est sûr que ça...
Voilà, donc le mec, il va rester
trois jours.
tout le temps. Donc le mieux, c'est d'amener des belles choses, des choses, mais que vous êtes prêt aussi à céder.
Oui, faut jouer
parce
le jeu.
Parce que si vous avez que des choses que vous ne voulez pas céder, que vous mettez une barrière, des fois qui sont carrément physiques, et non, il ne faut pas toucher et tout, ça, vous ne partagez pas la question. Oui, vous mettez des très belles pièces, mais la majeure partie des gens, ce sont des néophytes.
Ils vont pas voir la différence.
Ce qui les intéresse, c'est de voir des choses un peu spectacle, jolies, tout. Ils n'ont pas besoin de voir quelque chose de très, très rare. Voilà, on n'est pas au Quai Branly. Et ce qu'il faut, c'est que tout soit accessible, que les gens ils puissent toucher, même si dans une vitrine, ils puissent voir. C'est
la fameuse ambiance dont on parlait tout à l'heure avec
Daniel
Miron.
Voilà, pour que ça reste convivial. Parce que si vous avez une super collection et puis personne ne peut y toucher, peut vous voir, c'est froid et puis ça va frustrer les gens. Voilà, il faut amener aussi des choses qui restent accessibles. Ça n'empêche pas de mettre des belles choses aussi. Voilà, tout en sachant que ce que vous voulez préserver, le mieux, c'est de carrément pas l'exposer. Puis ça va vous stresser. Il ne faut pas le casser, on nous le voler, il faut le déplacer, il y a des risques de casse. Voilà. Ça reste une exposition conviviale. Voilà,
c'est un savant mélange, finalement, de faire son stand. C'est le cas aussi pour les Pokémon ?
Oui, moi, j'ai passé le week-end à reclasser mes albums de cartes par génération, par série, par extension. J'ai 3 albums de cartes que je souhaite vendre ou échanger. J'aimerais bien échanger plus tôt. Il va y avoir une partie du stand sur lequel je vais vendre des objets, des figurines, notamment ce genre de choses. Mais après, il y a une partie, ce sera plus de la déco. Et oui, en effet, présenter une partie de ma collection, mais celle-ci, je ne souhaite pas la vendre, en tout cas pour l'instant. Oui, voilà, c'est à peu près l'organisation que j'ai. Puis après, on parlait aussi de budget et tout ça. Moi, je suis assez sélective après dans mes collections. Je ne fais pas toutes les générations, toutes les séries ou toutes les extensions, par exemple, de cartes. Je ne fais que certaines extensions dans certaines langues, par exemple. Donc déjà,
d'accord,
ça limite assez.
C'est très pointu.
Oui. Donc ça limite déjà, le au niveau du budget.
Ça fait une demi-heure que l'émission a commencé et je viens de remarquer que vous étiez habillé aussi en Pokémon.
Oui.
jusqu'au bout. Pour les modèles réduits aussi, comment vous allez faire votre stand ?
Nous, on a un petit stock de maquettes à vendre, voire de ce qu'on appelle des dicas, c'est-à-dire comme des petites autos, mais déjà toutes faites, toutes peintes, toutes machin, donc prêts à partir. Et puis après, moi, j'ai préféré, en tant que président du club, de montrer tout ce qu'on peut faire en maquette, tout ce qui existe.
Ouais.
Donc chacun va amener des trucs, pour montrer aux gens qu'est-ce qui existe. C'est pas que la voiture, le tank ou le bateau. Vous pouvez avoir des dinosaures, des insectes, des trucs, des trucs de dessin animé, que sais-je, de la science-fiction, etc. Nous, on veut montrer tout ce qui existe. Comme ça, si quelqu'un et intéressé à se lancer dans ce truc, qui voit, dit, tiens, ça existe.
Mmh. Et peut-être susciter un peu des vocations, des envies,
voilà,
en tout cas.
Oui. Nous, on est, comment dire, on fait partager un peu de le plaisir. Hein, c'est le plaisir qu'on partage. Et puis, parce que bon, quand on est jeune, on a tous été collectionneurs, que ce soit n'importe quoi, de jouets familiaux, même s'ils sont cassés maintenant. Moi, j'en ai encore. Hein. J'ai un Pollux, j'ai un Nounours. C'était Bonne Nuit les Petits et Manège Enchanté, quoi. 50 ans après, quoi. Mmh. Donc voilà, et ça, je m'en séparerai pas. Tout le monde est un peu collectionneur. Il aime bien certains trucs, voilà. Donc nous, on veut aller plus loin et qu'à partir du Nounours ou de Pollux, de faire plusieurs figurines ou modèles réduits de ce qui a existé dans le dessin pour enfants il y a 50 ou 60 ans. Quoi. Mmh. Et même maintenant, les fabricants de modèles réduits font tout ce qui est nouveau, tout ce qui est ancien. Actuellement, vous pouvez faire quasiment tous les bateaux américains qui sont passés en Calédonie, vous pouvez les refaire. Mmh. Par exemple, ceux qui veulent...
Et ça peut être totalement un thème de collection, par exemple.
Oui, voilà. Ouais. Ouais. Et celui après, bien sûr, le thème de ce machin, il se complète par des bouquins spécialisés, des photos, des cartes postales, etc., etc. Puis même ceux qui ont la chance, par exemple, d'aller à Hawaï, vous pouvez aller voir le Missouri, qui est ancré là-bas, qu'on peut visiter, quoi. Donc, celui qui aime l'américain, par exemple la marine américaine, il y a encore des choses à voir. Quoi.
Mmh. On parlait
comme en Europe. Hein.
L'émission touche bientôt à sa fin. On parlait tout à l'heure de la limite qui pouvait être financière, évidemment, pour les collections. On a l'impression aussi que ça reste l'imagination, parce qu'on peut partir dans tous les sens avec les collections. Daniel Mirou, vous allez aussi toujours élire le plus beau stand de ce salon ?
Non, cette année. Il n'y aura pas d'élection du plus beau stand. C'est vrai que pendant des années, en fait, c'était une idée au départ de l'OPT, puisque l'OPT est un partenaire également du salon. Et finalement, compte tenu d'un certain nombre de difficultés qui sont arrivées, donc il n'est pas prévu qu'il y ait d'élection du bureau du plus beau stand.
Mais en tout cas, il y aura des beaux stands, ça c'est sûr. On va rappeler les infos pratiques rapidement pour conclure l'émission. Donc ça commence vendredi, c'est ça ?
Donc on commence tous les jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc l'ouverture est à 9h.
8h.
À 8h, pardon. Et se termine à 18h, sauf le dimanche où c'est 17h.
Bon, ben voilà, le rendez-vous est pris, donc salle d'honneur de Nouméa, de la mairie de Nouméa.
Absolument.
L'entrée est gratuite.
Ça, c'est bon à savoir. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les cinq d'avoir été avec nous.